Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Mais bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors nous allons reprendre le livre des femmes d'autrefois Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes des Aquitains évidemment. C'est un livre de Serge Pacot. Alors Serge Pacot, je vais le rappeler, il est né à Bordeaux en 1950, d'origine landaise, et après une carrière dans la fonction publique, il est l'auteur de nombreux livres sur l'Aquitaine. Il a écrit entre autres Biarritz, Bayonne, Bordeaux, Le Béarn, Les Landes, Saint-Jean-de-Luz, etc. Et bien sûr, Femmes d'autrefois, Nouvelle-Aquitaine, publié en 2019 par les éditions La Geste. Alors ce livre s'intéresse à une quarantaine de femmes aquitaines, plus ou moins célèbres. Alors une des plus anciennes des femmes évoquées est Placidie d'Aquitaine, née en 388, décédée en 450, vivant pratiquement à la chute de l'Empire romain. Alors je crois qu'on l'avait laissé, on l'avait laissé un peu en rade. Alors donc Placidie d'Aquitaine, comme je l'ai dit, de la couche d'un rude époux rustre au lit douillet d'un mari empereur. Alors voilà, on va reprendre cette lecture où on l'avait laissé. Alors, Sigéric se hâta de recueillir les fruits de l'héritage d'Arnolf et maltraita Placidie alors jusqu'à la faire marcher devant son cheval durant des stades et des stades, ceci afin de montrer au peuple sa force et sa volonté. Mais chez les Visigoths, la vengeance est un plat qui se mange chaud. Si Gérif était assassiné à son tour, moins d'une dizaine de malheureux jours après, à cause de cette fameuse fête, le nouveau roi Valia, un proche d'Arnolf, pour formaliser la paix restitua à la reine déchue, à son frère accompagné de Priscus Attal, qui finit ses jours en exil dans un bagne des îles éoliennes, au nord de la Sicile, où il sera étranglé. À l'époque, on bricolait pas, hein, si je puis dire. Bon, alors, Placidie, éphémère reine d'Aquitaine, épousa ensuite le général Constance, qui co-régnera sur Rome en tant qu'empereur sous le nom de Constance III. Pouvoir provisoire qui ne dura de février à septembre 421, où il mourut d'une mystérieuse maladie. On raconte qu'on le trucida, qu'on l'empoisonna sur ordre d'Honorius, avant qu'il n'accomplisse l'expédition guerrière montée contre Théodose II et son empire. Cependant, du couple naîtront deux enfants, Honoria, qui déshonorera de sa famille par un comportement de grande perversité sexuelle, et Valentinien, un futur empereur. Placidie, accompagné de ses rejetons, fut exilé chez son neveu, l'empereur d'Orient, Théodose II. Quelques années après, elle revenait en Italie à la tête d'une armée pour gouverner l'Empire d'Occident pendant les 25 prochaines années au nom de son fils, le futur empereur Valentinien III. Après de nombreuses péripéties et des difficultés générées par les chefs barbares, dans le redoutable droit des reins Attila, la souveraine s'éteignit le 27 novembre 450, à l'âge de 61 ans, après avoir régné sur l'Aquitaine. Placidie fut la dernière impératrice d'Occident à tenir ce rôle. Voilà, alors donc ça c'était la fin. On va retrouver une autre reine d'Aquitaine. Alors, il s'agit d'Adélaïde d'Aquitaine, qui est née en 945 et est morte en 1006. Alors d'une fille raisonnable devenue reine du royaume à une autre au comportement inapproprié. Alors on va voir un peu ce que nous dit ce texte de Serge Pacot dans « Femmes d'autrefois » en Nouvelle-Aquitaine. Alors la princesse naquit, on prend la lecture, la princesse naquit dans une rude famille, fille de Guillaume Tête d'Étoupe, dont le patronyme interrogea moult mémorialistes. Elle possédait les qualités et les défauts propres à sa race. Le comte de Poitiers, tout à la fois duc d'Aquitaine, présentait sûrement une curieuse complexion liée à son surnom, soit physique, soit moral, montrait-il une face hirsute, comme pourraient le faire supposer des références au végétal, ou portait-il de beaux cheveux blonds, ainsi que certains chroniqueurs le font à croire. Son caractère avait-il à y voir, le jugeait-on incontestant, inconsistant, un cerveau pareil de la Chiffemolle, avec son fils aîné Guillaume IV, bras de fer qui lui succéda, on saura davantage à quoi s'en tenir si l'on s'en réfère à son sobriquet. quoi qu'il en soit, enfin politique, le seigneur donna à épouser cette fille issue de sa semence au futur roi des Francs, le duc Hugues Capet, à l'occasion d'une trêve entre les deux domaines, la date n'est pas déterminée, bon, 968 ou 970, les historiens hésitent. On sait qu'Hugues Capet donc est une maîtresse, la fille naturelle prénommée Gozelin, on le fit moine à l'abbaye de Fleury-sur-Loire, et l'on n'en parlait plus dans ses affaires politiques. En voilà un autre de rangée, sans qu'il n'en coûtât, plus tard il devint archevêque de Bourges. Quant à Adélaïde, la jeune fille servit de gage pour entériner l'accord de paix entre seigneuries. Elle vécut auprès de son époux, Jean Sentiment, mais n'eut réellement conscience de fonder une lignée capétienne et de fertiliser par son sang aquitain les surgeons de la royauté française. Elle donna naissance au futur monarque Robert II, qui consolidera la dynastie, et trois filles dont l'histoire retient les noms. Il y a Edwige, Adélaïde, comme sa mère, et Gisèle. Toutes trois, évidemment, firent un beau mariage le dimanche 3 juillet 987. Leur mère devenait reine des Francs lorsque le duc Hugues Capet était l'élu à la direction du trône et reconnu roi par les Gaulois, les Bretons, les Normands, les Aquitains, les Goths, les Barcelonais, les Gascons et l'archevêque de Reims, Adalbéron, consacré la cérémonie. Voilà. Alors ça, c'est le début un peu des Capétiens. Alors, bien sûr, elle va continuer. Alors la jeune femme ne fit pas d'ombre et ne posa pas de tracas à son mari. Alors ça, c'est quelque chose de bien, hein. Femme qui ne cause pas de tracas. Alors Marie, c'est bien. Alors en prenant les mêmes dispositions que lui, à savoir la modestie, une certaine discrétion, ajouter une religiosité déclarée, elle usait avec parcimonie de son pouvoir. Le roi n'était-il pas lui-même abbé par la grâce de son élection ? Il fallut à ce dernier louvoyer au plus juste afin de garantir sa lignée et lui permettre une succession monarchique viable. Sans cesse menacée par des vaisseaux turbulents et ambitieux, Adélaïde se contenta de suivre les préceptes de l'époque. D'alors, un consentement certain unit le couple tout au long de son existence. Ça, c'est bien aussi. Alors, la nouvelle reine de France se voulut pieuse Alexée. Elle fondait le monastère de Saint-Frambeau dans la cité de Senlis. Elle fit élever la chapelle avec ses deniers ajoutés d'un couvent à Argenteuil, près de Paris. Loin des désinvoltures du sexe, les chroniqueurs ont une aile, son grand amour envers l'éducation contrariée et mis à mal par la maladie qui faillit emporter Robert vers l'âge de 11 ans. Elle pria beaucoup, comme elle en avait coutume, parvint à le sauver et lui fournit les précepteurs nécessaires à sa future besogne. Dirigé de main de maître, le royaume des Francs raconte qu'après la mort d'Hugues Capet, quoique Robert II fût longtemps majeur, Adélaïde conduisait quelque temps le royaume avec lui, elle assista également dans ses affaires de cœur. Alors ça, je ne sais pas si c'est bon, mais enfin, donc on va poursuivre un peu. Dans les veines d'Adélaïde, le sang qui y coulait n'était pas du jus de chausse. Elle avait engendré un fils et pour être roi, n'en était pas moins homme. Dans ses premières années, sa mère Léda se dépatouillait dans ses histoires sentimentales, mais à son décès, elle dut se débrouiller suivant ses desseins. Son appétence et l'intérêt du royaume, la destinée des épousailles de Robert, méritent d'être comptées et nous ne nous dérompons pas à la besogne. Alors, une certaine Rosala, fille du Béranger, roi d'Italie déchu, épousée le comte de Flandre, Arnaud, mais après une vie commune d'une vingtaine d'années, le mari décéda et que Capet la demanda en second mariage pour son fils et héritier en lui attribuant un autre prénom, Suzanne. Là, des sentiments conjugaux ne se sont pas forcément d'accord avec la raison politique. Le garçon âgé de 18 ans considérait sa vieille italienne qui atteignait la quarantaine avec une sensation de dégoût. Et après quelques mois de mariage, en s'appuyant sur la disproportion de l'âge, il la répudia. L'argument fut tout trouvé, des entrailles de la reine ne naquit aucune progéniture. Alors, aidé de sa mère, Adélaïde, le jeune souverain, parvint à convaincre le vieux Hugues de ses conseillers. L'homme était en outre roué, et les protestations de la comtesse de Flandre, qui sera enterrée à côté de son premier mari dans l'abbaye de Blandigny, de Lemurepoint. Il ne rendit rien de sa dot, malgré qu'on lui attribua le surnom de Robert le Pieux. Robert savait trier pour asseoir son royaume, le Bourgoin est livré. Alors ça, c'est un... Comment je pourrais dire? C'est certainement un bon roi pour... pour que ça se crée tout ça. Voilà la fin de ce chapitre. Alors, les prélats France en émurent, firent de vifs reproches au roi et à la reine. Bientôt, celle-ci, intriguée, la plus belle prenait la main haute sur son mari jusqu'à la diriger sur son métier de monarque. Effrayé lui-même par les accès de colère d'Issel, on vint à se méfier de la reine Constance. Quelques péripéties dramatiques donnèrent à tous le sentiment qu'elle ne plaisantait pas le moins du monde. À ce moment-là, le roi Robert regretta les conseils avisés de sa mère Adélaïde, hélas décédée depuis peu. Alors, la reine Constance faisait assassiner le comte Hugues de Beauvais, un des favoris de son époux. Puis un autre jour, l'on conduisait au supplice un certain nombre d'hérétiques. Elle reconnut avec eux son ancien confesseur, lui creva même un œil avec une baguette tenue dans sa main. Pour sa paix, Robert fut obligé de louer Constance en toute occasion. N'écrivait-il pas qu'il la chérissait pour sa façon d'être et sa vivacité dans l'administration des affaires qui lui revenaient. Une autre fois, il avertissait un de ses amis, afin de se méfier du comportement de Constance, l'inconstante prête à le dévorer, le jeu de mots était de lui. Voilà, toujours se méfier, hein, les femmes un peu trop entreprenantes. Bon, alors, à bout de souffrance, Robert sollicita de nouveau le pape, et se séparer de cette épouse dangereuse et de le faire annuler leur mariage, accompagné de Berthe, qui chérissait toujours malgré leur séparation officielle. Le roi des Francs tentait d'obtenir l'autorisation de reprendre sa précédente femme, dont l'alliance avait été vouée aux gémonies. À cette époque, Constance lui avait déjà donné des fils pour perpétuer sa dynastie. Il désirait vivre tranquille le reste de son existence auprès de sa gentille et tendre amante. Et là, ce souverain pontife inflexible bénissa exonérablement aux supplications du pauvre mari fustigé par sa conjointe officielle. Donc Jean XVIII leva l'anathème, mais maintint l'interdiction d'épouser une parente ou même de se lier de chair dans un acte copulatoire au nid. Les deux amoureux passèrent outre ce dernier précepte, mais le pauvre souverain se remit piteusement et tristement au cou la chaîne conjugale. Le malheureux en sursis en subit le poids douloureux jusqu'à son décès. Voilà, alors, le livre se termine ainsi. Malgré ses grands et rédhibitoires défauts, la reine Constance donna au royaume 7 enfants issus de son mariage avec Robert le Pieux, dont 4 princes. Hugues, mort avant son père, Henri Ier, roi des Francs, Robert de Bourgogne, puis roi des Francs, Eudes, évêque d'Auxerre, 3 princesses complétèrent la fratrie. Alors Adélaïde ou Alix, femme du comte de Nevers, Adèle, femme du duc de Normandie, Constance, femme du comte de Domarin, une véritable dynastie. Alors, ce chapitre se termine ainsi. Constance poussa ses fils à la révolte contre leur père, puis manifesta une préférence éhontée envers le deuxième, Robert, au détriment d'Henri, l'aîné. Ceci afin de le faire sacrer à sa place. Elle a même jusqu'à essayer de tuer ce dernier. La tentative échoua, elle ne survécut que quelques mois à Robert le Pieux, mourit en 1032, fut exhumé à la basilique de Saint-Denis à côté de celui dont elle avait toujours troublé le repos pour entamer une mort tellement ennuyeuse quant à sa longueur. Voilà, donc j'en ai terminé avec Adélaïde d'Aquitaine, et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine et avec beaucoup de soleil.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.